Donc on va faire une préparation qui s'appelle le caviar d'algues. On a une algue verte qui est la laitue de mer. Juste à côté, nous avons une belle algue rouge, la dulse. Et puis la troisième, c'est également une algue rouge, sauf que sa couleur, elle tend vers le noir. C'est l'Anori porphyra. Et cette algue-là, elle est très connue en Asie, puisque c'est avec ça qu'on réalise les sushis, makis. Les oligo-éléments, les sels minéraux sont bien présents. Quand vous mangez cela, vous vous faites vraiment du bien.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Elle s'appelle Dulse, laitue de mer, nori, wakame, pioca et ce sont des algues, de vrais légumes sous-marins, sauvages et écologiques et d'une richesse inouïe en saveurs mais aussi en protéines et en nutriments. Et si on accueillait enfin les algues dans nos assiettes, c'est la grande résolution que nous prenons aujourd'hui avec notre invitée Nathalie Yaniello. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste spécialisée dans l'environnement depuis 30 ans, auteur de nombreux ouvrages, ça fait bien longtemps, peut-être même avant les autres, que vous êtes convaincu par le goût et le pouvoir des algues, et vous leur consacrez à ces algues de nouveaux livres, Les algues et la spiruline. J'ai appris énormément de choses dans ce tout petit bouquin chez Rustica Édition, en plus il est pas très cher, 5,95€, vraiment formidable. D'ailleurs, il est question de cuisine, mais aussi de beauté et de biomatériaux. Nous, on va se contenter de cuisine aujourd'hui. Et un autre livre dans une collection qu'on connaît bien, aux éditions de L'Épure, les algues, 10 façons de les préparer. C'est une collection qu'on aime beaucoup. Et vous nous avez apporté des recettes étonnantes à base d'algues, y compris des desserts. Oui, parce qu'on peut aussi utiliser le pouvoir gélifiant des algues. On enfilera également nos bottes pour arpenter les rivages de la presqu'île garandaise avec Valérie et Jean-Marie Pédron. Ce sont des cueilleurs d'algues professionnels installés au Croisic. Un reportage signé Stéphane Combe que vous entendrez dans cette émission. Et leurs algues, toutes fraîches, sont sur le plateau dont on va déguster. On va les goûter ensemble. Il y a d'ailleurs un parfum de iodé marin. On se croirait au bord de la mer en Bretagne. C'est absolument spectaculaire. Dans la bande dont on va déguster, je demande aujourd'hui notre cuisinière Manon Fleury et notre chroniqueur vin Antoine Gerbel. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Manon.
Oui, je vais vous parler ce matin de haricots. Ça aurait pu être des haricots verts parce qu'on approche de la saison des haricots verts. Mais on va plutôt parler de haricots de mer.
Avec une recette que j'adore et que vous allez cuisiner carrément en direct sur la plaque de cuisson dont on va déguster. Antoine.
Alors que les algues arrivent par vaguelettes dans nos assiettes, comme aujourd'hui, l'idée de leur associer des vins aux saveurs salines est grisante. Et moi, je vais vous parler de melon. Mais de Bourgogne.
Ah, muscadet, non ?
Eh oui.
Ah, on est par là-bas, génial. Si vous avez des questions à la maison sur les algues, adressez-nous un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Les recettes de nos invités à base d'algues, toutes nos infos pratiques, le podcast de l'émission et le podcast de toutes nos chroniques sont à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Ah, petit bruit mousseux, premier indice. Juste avant de parler d'algues, je vous ai apporté une surprise gourmande, un petit apéritif pour ouvrir cette émission. J'ai versé dans vos verres une boisson. Vous n'en connaissez pas l'identité. Laurent Thomas, notre réalisatrice, a pris soin de masquer. Il n'y a pas que nous qui sommes masqués, masquer la bouteille. Alors, il y a une couleur, il y a peut-être aussi un parfum.
Comment vous pourriez la décrire ?
Il n'y a pas besoin de goûter.
Ah d'accord,
il y a pas besoin
je suis un petit joueur, c'est ça?
Ouais, c'est ça, mais peut-être qu'on se trompe.
Nathalie Yaniello.
Rhubarbe. Non, ce qui est drôle, c'est que vous parliez d'apéritif, moi j'ai plus envie pratiquement de parler de goûter, quoi.
Ça, oui.
Ah oui, c'est sucré.
C'est très gourmand, c'est très gourmand.
C'est très gourmand, presque un peu bonbon anglais, quoi. Ouais. Il y a un côté... qu'est-ce que vous diriez sur la couleur, Antoine Gerbel?
Ça me rappelle mes débuts en vin naturel.
C'est ça.
Non, c'est content de nos amis vignons.
Non, c'est une blague. C'est trouble, mais c'est plutôt un peu vert. Je vois des reflets un petit peu verts. C'est très acidulé. Il y a une très jolie acidité.
Ouais.
Oui. Quand je dis ça, les gens ont toujours peur, l'acidité. Non, c'est voilà. Mais c'est vrai que le nom était évoqué.
Ça vient serrer un peu les papilles comme ça.
Ouais. Je vais dire autre chose, ça me rappelle aussi un peu les groseilles, vous savez, les groseilles à macro, ces grosses groseilles qui étaient au fond du jardin et qui ont un peu disparu. Hein. Voilà, on est un peu dans cet univers-là, rhubarbe, groseille.
Voilà, mais je vous annonce que c'est bel et bien de la rhubarbe et je vous félicite de l'avoir deviné aussi sec. C'est une bonne nouvelle pour le producteur. Ça veut dire que le goût de la plante a vraiment été bien capturé dans cette bouteille. Vous définiriez son goût comme acidulé, végétal, un peu, comment vous diriez Manon Fleury?
Oui, très très végétal. Et... il y a vraiment ce goût de fruit, et ce qui est assez intéressant dans la boisson, c'est qu'il y a de la matière aussi. Il y a comme s'il y avait un peu de pulpe. Mmh. Et c'est assez intéressant, et en même temps, c'est assez léger. Plus léger qu'un jus de fruit. Et je trouve que c'est hyper rafraîchissant.
Il y a
un peu d'astringence, moi, que j'aime
c'est
bien.
Ça sert un peu les papilles.
On a le fruit.
Très agréable.
Le fruit est pressé dans le verre.
Ouais. C'est un peu asséchant. Mmh. Et cette rhubarbe est cultivée en agriculture biologique par Emeline et Julien Picard dans leur ferme du Grand Ballot. On est à Jouarre, en Seine-et-Marne, et on est en plein dans la région de l'Abri.
Mais oui, chez moi.
Je sais que vous allez y faire du cheval là-bas, très souvent.
Columérien de naissance, quand même.
C'est ça. À l'origine, c'est une exploitation céréalière qui produit du blé, de l'orge, du colza, du chanvre. Mais notre couple s'est diversifié il y a quelques saisons, notamment autour de la rhubarbe. Ils vendent donc leurs tiges de rhubarbe fraîche, vous savez, ce joli bâton en forme de polygone, c'est d'ailleurs de la famille des polygonacées, hein, la rhubarbe, exactement comme le sarrasin. Et ils fournissent notamment en tiges fraîches le grand pâtissier Pierre Hermé. Mais ils en font aussi donc cette boisson en collaboration avec une conserverie artisanale dans le Val d'Oise. Du jus de rhubarbe pressé à froid, un peu de sucre bio pour adoucir l'acidité de la rhubarbe et du gaz carbonique pour faire pétiller. On n'est pas dans une boisson naturellement fermentée, mais plutôt dans un soda naturel et très vitaminé, nettement moins sucré que ses cousins industriels, si vous voyez ce que je veux dire. Une bonne alternative pour faire goûter de jolies boissons à vos enfants. Et puis, j'ai également cette confiture bio de rhubarbe safran, c'est un cadeau pour Manon. Allez, c'est pour vous. Safran aussi parce que ils se sont lancés, ça fait partie de leur stratégie de diversification dans la culture de cette épice, le safran bio, en plus de la rhubarbe. Voilà, le pétillant à la rhubarbe et cette confiture à la rhubarbe sont notamment disponibles à la vente sur Biovore. C'est d'ailleurs Jean-Tric Géraud, le fondateur de ce circuit court d'Île-de-France, qui m'a fait découvrir ces excellents produits. Merci à lui. Mais on peut aussi se procurer ces produits directement sur le site de la ferme grandballotterredebris.com. Toutes les informations sur franceinter.fr, à la page on va déguster. Laurane Thomas réalise l'émission avec Julien Dumont. Nadia Chougui et Anna Maréchal nous ont aidés à la préparer. Dans un instant, on cueille des algues dans un coin de rêve. Attention, la côte sauvage de la presqu'île Guérandaise, près du Croisic, en compagnie d'un couple passionnant, Valérie et Jean-Marie Pédron. Mais juste avant, on cueille le jour avec Paul McCartney, Seize the Day, cueille le jour, extrait de son dernier album. Et c'est un titre choisi par Djoubaka. Carpe diem sur France Inter. I don't care to be bad, I prefer to think twice. All I know is it's quite a show, but it's still alright to be nice. Yankee toes and Eskimos can turn to frozen ice when the cold. See you.
Pour trouver des algues, il faut des rochers. C'est la première chose. Et là, nous sommes très près de ce qu'on appelle la pointe du Croisic. C'est l'endroit le plus exposé de la côte. C'est là aussi où les brassages d'eau de mer sont les plus importants. C'est une eau qui est fortement oxygénée. Et c'est là qu'on va trouver des espèces d'algues comme les laminaires, parce qu'elles ont besoin d'une eau qui est souvent renouvelée et qui est fortement oxygénée.
Jean-Marie, tiens, là-bas, regarde, il y a un peu de nori, là. Tu voudrais pas qu'on en prenne ?
On va regarder ça. Bon, Stéphane, restez plutôt là, là où c'est sec, parce que là, ça glisse vraiment.
Alors là,
moi, je vais m'avancer, parce que là, je vois que les algues sont en eau, mais du coup, elles sont peut-être plus compliquées à pêcher, mais elles sont propres. Et c'est très important de pêcher des algues propres.
Tiens, je te passe les ciseaux.
Alors, je suis à genoux, il ne faut pas que je tombe, parce que sinon, je pique la tête dans l'eau. Et puis, le bord du rocher est tapissé de cette algue. En l'occurrence, c'est l'algue verte Anteromorpha, enfin l'une des algues du genre Anteromorpha, ce qu'on appelle plus prosaïquement ou plus communément l'aonori au Japon, ou les cheveux de mer. Donc une algue qui, une fois chauffée ou séchée, va dégager des parfums très fleuris, très intéressants. Au Japon, encore une fois, elle est très très connue. Donc je me penche et puis je coupe un peu, je taille un peu dans la masse. Alors on en laisse toujours, on coupe qu'un tiers, hein, parce que les deux tiers, les deux autres tiers, on les laisse pour les animaux marins. Ça permet aussi à l'algue de se reconstituer. On a vu qu'avec des algues vertes comme la laitue de mer, on peut cueillir 3 voire 4 fois dans l'année au même endroit. Et à chaque fois, l'algue se reconstitue. Donc c'est intéressant. Par contre, si vous goûtez celle-ci,
alors là, c'est une algue qui est marron.
Oui, marron. Ça ressemble à une petite fougère. Je vous laisse goûter.
C'est un goût d'huître.
Exactement. Un petit goût de truffe aussi. On l'appelle l'algue poivrée.
Alors là, Valérie, vous venez de ramasser une autre algue.
Oui.
Est-ce que Jean-Marie et Valérie, vous avez le droit de ramasser toutes les algues qui sont en bord de mer, là, sur les rochers ?
Alors, sur les rochers, on a à peu près entre 500 et 800 espèces, selon les spécialistes. Ce n'est pas tout à fait le même nombre, mais bon, voilà. Mais sur ces 500, il y en a seulement une vingtaine qui sont classées algues alimentaires et qu'on peut proposer à la dégustation. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bonnes à consommer, à la différence des champignons ou des plantes pour lesquelles on peut se tromper et s'intoxiquer. Là, il n'y a pas de risque. Toujours une algue accroché sur le rocher, ça c'est la règle absolue. Et puis dans certains endroits aussi, quand les espaces sont pollués, vous avez éventuellement une accumulation des certains métaux lourds qu'on peut retrouver dans les algues. Donc la zone de cueillette doit être propre. Donc là on a une autre algue verte qu'on appelle la laitue de mer, qui ressemble à une salade avec cette couleur verte bien soutenue. Et là, donc, hop là, je coupe la lame.
Comment vous vous définissez, Valérie et Jean-Marie ? Vous êtes des cueilleurs, des agriculteurs ?
Des cueilleurs.
Des cueilleurs.
Des cueilleurs sauvages. En même temps, notre métier est au carrefour de la cueillette et de l'aquaculture. Le fait aussi qu'on soit en mesure de garder les algues vivantes plusieurs semaines, etc.
Valérie et Jean-Marie Pédron au micro de notre reporter Stéphane Combe, qui a bien failli d'ailleurs se casser la figure dans les rochers, parce que ça glisse les rochers, surtout quand il y pousse des algues. Valérie et Jean-Marie sont à la tête des Jardins de la Mer, une ferme marine de 7 hectares, située dans une ancienne saline de la presqu'île guérandaise. On est près du Croisic, dans un site naturel protégé, il paraît que c'est très beau, j'ai pas eu la chance d'y aller. En revanche, il y en a qui connaissent bien autour de ce plateau, je crois même que c'est ce couple Pédron, Nathalie Yaniello, qui vous a vraiment converti à la passion des algues ?
Oui, tout à fait. En fait, je mangeais des algues depuis très longtemps. J'ai eu la chance d'aller au Japon au début des années 90, parce que je suis pas une toute petite jeune, donc ça fait un moment que je mangeais des algues. Et puis, il y en avait très peu en France à l'époque. Et puis, petit à petit, j'ai goûté tout ce qui s'offrait sur le marché. J'en cueillais, mais un peu sans trop connaître. Et un jour, en ouvrant un restaurant que j'ai eu pendant 3 ans, qui s'appelait Nana, on a fait goûter des algues aux clients cuisinés. Et on est passé par les Pédrons. Et voilà. Et on s'est rencontrés, on est devenus super amis.
Et comme la vie est bien faite, la connexion s'est étendue jusqu'à Manon Fleury.
Avec Manon.
Notre chroniqueuse chef, qui adore les algues, et en particulier celle du couple Pédron.
Oui, mais parce que.
Vous y êtes allé même.
Oui, j'y suis allée cet été avec un autre ami chef, Julian Maori du restaurant Mieux. Et je pense que en tout cas c'est marrant ce que dit Nathalie, parce que c'est à dire qu'il y a certaines personnes qui avaient pris conscience de ça il y a plus d'une dizaine d'années, et en fait il y a une génération aujourd'hui de chefs qui s'y intéressent de plus en plus et qui veulent les intégrer dans la cuisine française, donc c'est bon signe.
Pour des raisons à la fois, on va le voir, gustatives et nutritionnelles. Alors avant même d'évoquer les vertus inouïes des algues et leur rôle crucial. Le rôle crucial qu'elle pourrait jouer dans l'alimentation demain. On va commencer par s'intéresser à deux premières algues qu'on a entendues, dont on a entendu le nom dans le reportage. Alors, il évoquait Jean-Marie Pedron, cette petite fougère. Et ben, il se trouve que par miracle, elle a atterri ou améri sur le plateau dont on va déguster. Ça ressemble vraiment à une petite fougère un peu sombre avec des reflets marron, brun, voire légèrement rose sur les bords. Il nous promet un goût de poivre.
Ça ressemble à des racines. On imagine une coupe de vigne et les racines dans la terre. C'est marrant, cette inversion.
Non, mais attendez, quand il évoquait un goût de truffe.
Oui, alors c'est tout à fait ça. C'est de la truffe, du poivre, le vrai poivre.
Oui. Et en même temps, en texture, quand on ferme les yeux et qu'on pense pas au goût,
très croquant.
Moi, je trouve que ça ressemble à de la peau de poulet.
Ah oui, tout à fait.
En fait, en texture, ça se mâche et sans penser au goût
très iodé. C'est pas assaisonné.
Non.
C'est pas du tout assaisonné, c'est poivré. Et là, c'est frais.
Quand on dit que c'est poivré, ça picote un peu.
Alors oui, et là, on l'a en très frais, donc c'est sorti et ça a été mis dans les bains d'eau de mer purifiée des Pedron. C'est arrivé en barquette, mais moi je l'utilise parce que je peux pas me faire livrer non plus toutes les semaines de ceci à Paris, mais je l'utilise moi en sec. Et en sec, le poivré, il est super intéressant, même sur une viande grillée rouge, genre avec de la coulure d'anchois et ça dessus, comme un sel. Mais c'est magique. Et le poivré est avec une longueur de bouche très longue, et c'est très intéressant.
C'est d'une complexité aromatique et aussi très intéressant au niveau de la texture. Là, dans vos assiettes, Manon Fleury, spontanément, ça se passe comment?
Moi, je l'imagine vraiment dans un bouillon avec des nouilles, comme si on voit des nouilles chinoises, comme un champignon, quoi.
C'est
vraiment.
Ça. Mmh.
Et c'est intéressant ce que dit Nathalie sur la transformation de l'algue, c'est-à-dire que dans un usage sec ou frais, on n'a pas du tout le même usage et pas du tout le même goût, et on peut s'en servir de manière très différente. Et ça, c'est vraiment ce qui montre la diversité des algues et la richesse qu'on trouve dans ce produit.
Incroyable. Deuxième algue évoquée par le couple Pedron. Alors là, pour le coup, cette algue est beaucoup plus populaire, voire très distribuée dans les magasins bio. Elle a vraiment cet aspect de...
Mais de laitue,
de Batavia, de laitue, hein, pour ainsi dire, avec une couleur très vert vif, vert Fio. Acide.
Ouais.
C'est la laitue de mer.
Et d'ailleurs, son nom latin, il y a lactuca, laitue, quoi, dedans. Donc, c'est vraiment le légume de la mer. C'est facile à trouver. C'est facile à manger. On va pouvoir expliquer comment, mais en fait, on peut la couper très facilement et on a des grandes feuilles. Ça se sèche facilement au soleil ou, alors attention, les algues vertes se sèchent pas au soleil au sens rayon lumineux, parce que ça transforme un petit peu le vert. Donc si on veut garder la couleur, il vaut mieux le sécher dans un endroit sombre. Mm-hmm. Mais quand j'ai au soleil, c'est-à-dire avec de la chaleur. Et sinon, les gens qui ont la chance d'avoir un déshydrateur, c'est parfait de déshydrater l'algue verte.
On la trouve souvent dans les soupes miso des restaurants japonais.
Alors,
notamment.
On la trouve parce qu'elle se réhydrate en 10 secondes. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, elle est très facile à sécher, à transformer en paillettes, à transformer en poudre fine, donc c'est une algue très très utilisée. Et c'est une algue qui est bourrée de magnésium.
Et on va... Oui, Manon.
Et si je peux faire une remarque, c'est aussi celle qui fait, je crois, le moins peur.
Oui.
Et c'est souvent le cas avec les algues, parce que c'est assez étranger, c'est pas des formes à laquelle on a l'habitude, etc. Et la laitue, c'est celle qui ressemble le plus à un végétal normal, en
donc
fait.
Donc ça peut être une bonne algue d'initiation.
Tout à fait.
Pour entrer dans le monde fabuleux des algues, avec une note marine, mais assez raisonnable. On n'est pas dans une explosion qui peut faire peur, une explosion gustative, et par ailleurs une texture charnue vraiment très agréable. Autre surprise sur le plateau dont on va déguster, c'est un dessert, oui, à base de laitue de mer. Alors là, fallait quand même oser. Le gâteau est très beau, je crois qu'il s'agit d'une recette à l'orange.
Alors, c'est un gâteau fait avec une orange entière. On a aussi un trait commun avec Manon, c'est qu'on est dingue d'agrumes toutes les deux. Et donc là, on part d'une orange entière avec la peau, les pépins, enfin tout. Faut que l'orange, elle soit grosse, c'est-à-dire au moins 3 à 400 grammes. Donc c'est pas un gâteau de
bio,
pâtissier.
J'imagine.
Alors évidemment,
avec
bio,
vous,
celle-ci.
Ça ne m'étonnerait pas.
Celle-ci est évidemment... Alors celle-ci, elle est est italienne, biologique, et donc on la lave, on la sèche, on la coupe en morceaux, on mixe avec du sucre, donc c'est vraiment un gâteau
avec
simple.
Le zeste.
Tout. L'orange entière. Et s'il y a des pépins, moi j'adore l'amertume, et il n'y avait pas de pépins dans celle-là. Donc j'ai pas pu les ajouter, mais je ne les retire pas. J'aime bien l'amertume, moi. Et en fait, pour ne rien vous cacher, ce gâteau, c'était des essais faits avec du thé vert japonais. Et donc à un moment donné, je me suis dit, mais bien sûr, la laitue de mer a des choses en commun avec certains thés japonais, et donc ça va bien marcher. Alors, pour ceux qui n'auraient pas de laitue de mer, je vous rassure, vous pouvez aussi le faire avec une algue rouge qui est la dulse.
Oui.
Et la dulce va très bien avec tout ce qui est fruits. Donc, bon, mais c'est moins épatant. Vous voyez, là, comme dit Manon, la laitue de mer, c'est un légume.
Alors, est-ce que ça joue sur la texture? Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un moelleux dans ce gâteau. Enfin, voilà, c'est l'humidité qui joue.
On se pose des questions sur le rôle, effectivement, de cette laitue de mer.
Et je trouve que c'est très chouette de l'associer à la. Il y a de la poudre d'amande, non?
Oui, il y a un poil.
Ouais, et cette poudre d'amande, elle vient amener de la douceur à la légère amertume de la laitue de mer. Et c'est très malin, parce que c'est vrai.
Et alors, juste une chose. Si vous achetez, parce que le commun des mortels achète quand même des barquettes de dalles qui sont saumurées dans les magasins bio, il faut absolument le dessaler, parce que même si c'est un gâteau un petit peu étonnant, vous faites pas une quiche à l'orange non plus, vous voyez.
Donc, toutefois, même dessalé, j'imagine que cette algue apporte un peu de salinité au gâteau.
Oui, mais moi je mets toujours texture, du sel, comme tout pâtissier qui se respecte dans les gâteaux, donc c'est pas gênant.
C'est un gâteau un peu mouillé, légèrement spongieux, avec un bon goût fruité, cette note saline d'algue, cette profondeur presque un peu cette sapidité presque un peu umami.
Oui,
c'est vraiment un gâteau extraordinaire. Ah non,
donc,
vraiment bravo.
Après, on peut faire aussi des mélanges thé vert, laitue de mer, c'est intéressant.
On va voir ça ensemble. Alors, on va aborder maintenant un versant très important de ces algues, c'est leur pouvoir nutritionnel. Les algues ont en effet un potentiel spectaculaire pour l'alimentation de demain. On retrouve près de Guérande, Valérie et Jean-Marie Pédron qui nous racontent les super pouvoirs de ces algues au micro de Stéphane Combe.
Tu veux qu'on aille du côté de la zone des haricots de mer, par exemple ?
Est-ce que vous considérez que les algues sont des condiments, des épices, des légumes ? Comment vous pouvez les définir ?
Eh bien, je dirais qu'elles sont tout à la fois. On a vu tout à l'heure, en goûtant cette algue poivrée ou cette algue qui avait goût d'huître, que là, on avait entre les mains un incroyable condiment qu'on va, par exemple, pouvoir ajouter sur un poisson blanc, dans une sauce. Par contre, le spaghetti de mer ou haricot de mer, lui, va constituer un légume d'accompagnement d'une viande. Et vraiment, c'est extraordinaire. Il va servir aussi pour l'apéritif s'il est mis au vinaigre.
Et puis, si on sèche certaines algues et qu'on les réduit ensuite en paillettes, voire en micro-paillettes, on va en faire des épices. On va saler, on va parfumer. Donc, c'est tout cela à la fois, tout ce que vous avez dit.
On voit tellement d'algues, notamment dans cet endroit où vous m'avez emmené, là, à côté du Croisic. On a l'impression que c'est une ressource qui est totalement illimitée.
Elle est illimitée si on la gère correctement. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'endroits où on peut cueillir les algues. Mais certaines années, on ne va pas sur certains champs pour les laisser repousser ou se régénérer. C'est comme une forme de jachère.
Il y a très peu de résidus d'engrais qui se retrouvent dans l'eau. Heureusement pour nous.
Voilà. Regarde, t'as encore des jeunes pousses là.
Oui, j'ai vu aussi. Ça veut dire qu'il y a encore des spaghettis qui n'ont pas poussé. Si on cueillait tous les spaghettis de mer qui sont sur ces rochers, si on les cuisait comme des haricots verts, on pourrait nourrir des tablées de centaines de personnes. Et l'année prochaine, on recommencerait les mêmes choses. Par contre, il faudrait encore une fois les cueillir de façon raisonnée pour que la ressource se renouvelle. Mais on peut faire de l'algueculture en mer, il n'y a aucun intrant chimique. Il n'y a aucune pollution, c'est quelque chose de complètement naturel.
Et vertueux.
Et vertueux. Oui, c'est vraiment un aliment de demain.
Et puis on retrouve des éléments qui sont importants pour notre alimentation, donc grande richesse en protéines sur certaines d'entre elles. Et en fait, entre ces trois éléments, vitamines, oligo-éléments et sels minéraux, on a des coefficients ou des curseurs qui sont largement supérieurs à ceux qu'on peut avoir dans les fruits et légumes. Allez.
C'est un moment que vous appréciez, Valérie, Jean-Marie, quand même venir, même si vous venez plus de 1000 fois par an sur les rochers, quelle que soit la météo.
Toujours, jamais blasé, toujours émerveillé. On respire, il suffit de relever la tête, on prend le soleil, donc notre dose de vitamine D naturelle. On regarde les bateaux passer, bateaux de pêche, bateaux de plaisance, les vagues, les moutons, les oiseaux.
Et alors ces algues que vous cueillez, parce que vous en consommez, ou si, Jean-Marie, Valérie, comment vous les dégustez?
Alors, le
vous,
plus souvent,
vous, personnellement, est-ce que vous en mangez aussi sur les rochers?
Personnellement, voilà, je fais le contrôle qualité sur le rocher. J'en mange déjà pendant les cueillettes. On aime bien les manger en conserve. Quand on a fait des haricots verts, c'est facile à réchauffer. On fait un œuf sur le plat. On met quelques épices d'algues également. On sert les pâtes ou le riz. On ajoute les furikake. Et ainsi de suite. Donc on en mange en fait régulièrement. Ça fait partie de l'élément incontournable de notre cuisine, sur le coin de la gazinière, sur la table, dans nos assiettes.
Nathalie Yaniello, en introduction de votre livre « Les algues, 10 façons de les préparer » aux éditions de l'Épure, vous écrivez très sérieusement « Les algues pourraient sauver la planète et ses 9 milliards d'habitants attendus en 2050 ». Or, en France, on sera d'accord sur ce constat, on a longtemps ignoré, voire méprisé les algues. On les laissait un peu trop volontiers aux amateurs de régimes végétaliens et macrobiotiques. En clair, on se moquait un peu des algues, y compris les grands chefs, Manon Fleury. Alors que les Japonais, pour ne citer qu'eux, en consomment 7 à 9 kilos par an, c'est-à-dire plus que notre consommation de salade verte, qui en France est estimée à 7,3 kilos par an. Pourquoi les algues n'ont pas encore percé dans notre alimentation, alors qu'en France, il y a une ressource remarquable, les pédrons nous le disent, et par ailleurs, on sait que la façade atlantique de France est peut-être bien l'une des plus riches d'Europe.
Oui, notamment toute la zone de Roscoff, du fait des brassages dont parlent Jean-Marie et Valérie.
Il paraît que c'est un des plus beaux gisements au monde.
C'est un des plus beaux gisements au monde, c'est le premier Roscoff. En Europe sûr.
Finistère.
Et en Europe, on va dire que la production en fait européenne, qui représente que 1% de la production mondiale, elle est constituée, elle vient de 25% de la production française et 90% de la production française, c'est la Bretagne. Donc vraiment, la Bretagne a un rôle très important. Alors pourquoi ? Parce que, comme ils le disent, pour avoir des eaux propres, il faut des eaux brassées, et qu'effectivement, l'eau est plus brassée dans des endroits où il y a du courant, comme aux alentours de Roscoff, et notamment la pointe d'Ouessant, etc. aussi, tout ça c'est brassé. Il y a un fort dénivelé aussi, ça faut penser à ça, ce qui n'est pas le cas aussi en Méditerranée. Et donc, il y a des eaux beaucoup plus propres. Alors, évidemment, quand on ramasse des algues, ou quand on les cultive, on peut le faire. Il faut que ça soit dans des endroits propres, sinon c'est une plante qui absorbe tout ce qui peut être dans la nature, comme n'importe quelle plante, même terrestre.
C'est vrai qu'on est beaucoup alerté par nos auditeurs. Le sujet algues a déjà été évoqué par l'ami Mathieu Vidard dans La Terre au Carré. Beaucoup d'auditeurs craignent la présence de métaux lourds.
Oui, Thierry nous écrit très récemment, nous a expliqué que les algues étaient assez souvent composées de métaux lourds. Les passer à l'eau claire ne suffirait pas à les rendre comestibles.
Non, d'ailleurs, passer à l'eau claire n'importe quel produit, ça ne retire pas les métaux lourds. Ce qu'il faut savoir, c'est comment on ramasse les algues, et on les ramasse dans des endroits où, évidemment, les métaux lourds n'ont aucune ne peuvent pas arriver. Les métaux lourds, c'est quoi? C'est des zones industrielles. Donc, dès qu'il y a un ruissellement d'eau, par exemple, faut dire ça aux cueilleurs amateurs, lorsque vous ramassez des algues, faut jamais le faire après une période de pluie. Parce que sur le rivage vont arriver des ruissellements peut-être très en amont des bassins. Mais pour répondre à votre question, pourquoi on n'a pas mangé des algues jusqu'à maintenant, d'après moi, il y a une raison bêtement historique et culturelle française, c'est qu'on a la chance en France d'avoir tout qui pousse, tout, quasiment, sauf les plantes tropicales. Et
donc
encore,
on n'a pas eu besoin d'avoir recours aux algues.
On a eu des plantes tropicales pour les raisons qu'on connaît d'avoir de colonisation, donc tout simplement. Donc on a tout à notre portée, donc les algues n'étaient qu'une partie des produits qu'on pouvait avoir. Et les seuls qui mangeaient des algues, c'était pour des mauvaises raisons, c'était les Bretons, quand la Bretagne était encore totalement pauvre et que l'agroalimentaire n'avait pas fichu en l'air une partie des terres et du rivage breton, eh ben on ramassait des algues parce qu'on n'avait rien d'autre à manger. On mangeait ce qu'on appelait le steak de mer, c'est une algue rouge avec des lames très très larges qu'on faisait cuire au four avec ce qu'on avait, et on mangeait des pommes de terre, des algues au four et du gouelle ou une forme de grelet, quelle qu'elle soit. Donc ça avait une connotation de pauvreté, et puis les liens entre la France et le Japon, qui aujourd'hui sont très très forts dans le milieu de la cuisine, étaient totalement inconnus. Totalement sans l'oubli.
D'ailleurs, on donne aussi aux algues beaucoup de noms, le wakame, des noms qui sont directement issus de la langue japonaise.
Et il ne faut pas oublier que c'est l'Asie du Sud-Est, et essentiellement le Japon et la Corée, qui fournissent, on va dire 96% en fait vient d'Asie, et sur les 96% de la production mondiale,
pardon. Et donc, sur les 96%, on va dire que c'est une grande majorité du Japon et de la Corée. Donc, si on n'avait pas d'accointance, j'allais dire, avec ces pays-là pendant très longtemps en cuisine... Parce qu'évidemment, de la génération de Manon, ils connaissent le Japon. Mais bien avant, sûr. On connaissait moins quand même.
Et vous confirmez leur bienfait nutritionnel tout à fait étonnant.
Oui, bien entendu.
Fibres, vitamines, oligo-éléments, apport en protéines, magnifique.
Alors, oui.
Façon aussi avec, de freiner sur la viande.
Je
ne
sais pas si on a le temps, mais attention sur la protéine. Il faudrait manger quand même, par exemple, quand vous mangez 7 grammes d'algues par jour, ce qui est quand même beaucoup, vous n'avez que 2 grammes de protéines. Donc là, il y a de la recherche pour essayer de voir comment les algues pourraient, on renforcerait son pouvoir protéiné, entre guillemets, pour vraiment, si on devait sauver la planète et arrêter de faire n'importe quoi sur les terres arables qui sont de plus en plus rares.
Antioxydants aussi.
Alors, antioxydants, potassium, magnésium. Voilà. Fer, calcium, beaucoup de calcium, voilà.
À présent, plein feu sur le haricot de mer qu'on appelle aussi spaghetti de mer, Imantalia et longata pour les intimes. C'est l'algue préférée de notre cuisinière Manon Fleury.
On va déguster.
Vous préférez haricot ou spaghetti comme petit nom, Manon ? Là, pour la circonstance, ce sera peut-être spaghetti.
Ce sera peut-être spaghetti, mais à la fin de cette chronique, on va commencer par haricots, parce que c'est comme ça que j'ai abordé cette algue. Et moi, contrairement à Nathalie, je ne suis jamais allée au Japon. Et en fait, j'ai été tentée de trouver des ouvrages japonais qui parlaient des algues. Et je me suis dit, ben non, je vais pas faire ça. Je vais prendre le contre-pied et je vais prendre mon bagage de cuisinière française. Et je vais essayer d'aborder cette algue avec mon bagage de cuisinière française et essayer quelque part de l'aborder en l'abordant comme un végétal. En fait, qu'on trouverait dans la terre. Et je trouve que c'est peut-être comme ça.
Comme un légume presque.
Comme un légume. Et c'est peut-être comme ça qu'il faudrait aborder les algues, parce que ça ferait moins peur. Et finalement, c'est quand même un végétal de la mer et on peut l'aborder vraiment comme un légume. Donc moi, j'ai essayé d'envisager le haricot de différentes manières. La première manière, c'est cru. Et c'est comme ça, je crois, qu'en fait, finalement, c'est à la fois plus facile de les manger parce qu'on n'a pas de cuisson, ça arrive directement dans l'assiette, etc. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on a le plus de fibres. L'haricot de mer est particulièrement riche en vitamine C. Et donc, c'est comme ça que j'ai essayé de le traiter de la première manière. Et donc, cru,
une texture formidable.
J'ai essayé d'en faire, exactement, de le traiter presque comme une... comme un haricot vert, sauf que je l'ai pas cuit, donc je les ai traités presque, je les ai taillés en tronçons et je les ai associés à un praliné de graines de courge que j'ai fait. Et en fait, je suis essayé de venir casser ce côté iodé qui peut être aussi parfois un peu dérangeant par le gras de la graine de courge qui vient enrober le haricot de mer et qui vient vraiment lui amener une caresse à ce côté iodé qui peut être un petit peu dérangeant.
Tout d'un coup,
super
là, on a
réussi.
Une texture soyeuse qui recouvre.
C'est très très bon.
Le haricot croquant, en plus, il y a une très belle chromatique. Un camailleux de vert, c'est étonnant.
Oui. Donc, pour faire ce praliné, c'est vraiment très simple. Vous mixez des graines de courge avec un peu d'huile. Vous faites comme une pâte à tartiner. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça vous donne une pâte à tartiner très verte, qui va très bien avec les algues. Et on reste vraiment dans cet univers marin, alors que, on est sur un aliment qui se trouve dans la terre.
Donc, quel régal.
Elles sont bien torréfiées, les graines de courge?
Elles sont un peu torréfiées, oui. On les passe largement en four.
Puissance, ouais.
Oui, tout à fait. Et puis ensuite, pour conserver justement ce côté cru et ces côtés vitaminiques qui est assez intéressant dans le haricot de mer, on peut le transformer, on peut le lacto-fermenter avec du sel pour le conserver. Alors là, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps. Et pour lacto-fermenter, il faut au moins 7 jours pour lancer la lacto-fermentation et je n'ai pas eu les algues assez tôt. Mais ça fonctionne. Et ce qui est assez intéressant avec la lacto-fermentation, c'est que ça permet d'augmenter encore ce côté vitaminique. Donc imaginons qu'on laisse ces algues dans un frigo pendant quelques mois, et ben on va pouvoir les retrouver et il y aura encore plus de vitamines qu'au départ. Donc ça, le côté lacto-fermenté, c'est vraiment intéressant. Et puis il y a le côté aussi pickles. Là, je vais vous faire passer une assiette avec les pickles de haricots de mer réalisés par Jean-Marie et Valérie Pédron.
Alors, l'assiette circule,
qui m'ont envoyé.
On prend nos précautions sanitaires,
voilà.
Et on croque. Bah,
attention.
Là, on devrait avoir une petite note un peu acide vinaigré.
Acide vinaigré, mais à la fois assez doux parce qu'il y a quand même un petit peu de sucre.
On est sur l'anchois.
Exactement.
On est sur l'anchois de la côte basque en dessous de la frontière.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que Jean-Marie, il met aussi des herbes qu'il trouve juste à côté de la ferme marine. Et il met quelques baies de genièvre aussi, je crois, quelques baies de masseron, qui est le poivre qu'on utilise de plus en plus aussi en cuisine, qui remplace le poivre qu'on va chercher à des milliers de kilomètres et qui est une baie qu'on trouve dans nos régions. Et puis, je vais terminer par une recette dont on parlait au début de cette chronique, qui est une recette de haricots de mer allez vangolais.
Alors là, il est temps.
Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, Nathalie.
Allez vangolais.
Voilà.
Allez, bon.
Italienne que moi. Vous avez
l'accent tonique est sur la première syllabe. Oui, allez vangolais. Je m'excuse.
Je suis entourée d'Italiens.
Non, moi c'est juste.
Moi, c'est que mon mari.
Avant d'entamer cette recette et pendant que vous installez votre casque micro, car vous allez réaliser la prouesse de faire ces spaghettis allez vangolais en direct. La texture de ces pickles de haricots est proprement surprenante. Quand vous évoquez l'anchois, on a vraiment le fondant de l'anchois. On oublie totalement la texture croquante du haricot de mer à l'état cru.
Et on oublie même que c'est un végétal.
C'est incroyable. Moi, j'avoue que c'est une véritable découverte. Et pourtant, je commence à j'en ai vu quoi. Et voilà, franchement, surprenant.
Pickles, c'est comme ça qu'on trouve le plus souvent les spaghettis de mer. Hein. C'est sous forme de pickles dans le commerce général
c'est
en France.
Alors ça me permet de placer une question d'auditeur. Christian demande, est-ce que la salicorne est une algue? Parce que j'ai la même recette.
Non.
Parce que j'ai la même recette de salicorne que je mets dans le vinaigre, moins subtil que ce qu'on vient de
goûter. On l'a 12 ou 13 fois, cette question.
Est-ce que la salicorne est une algue?
Non, la salicorne est une plante terrestre qui pousse notamment dans les marais salants et qui est d'ailleurs propre aux marais salants de la côte atlantique. On en trouve un peu en Méditerranée et sur d'autres aires mondiales, évidemment. Mais c'est vraiment une plante, mais qui est extraordinaire aussi.
Merci beaucoup. Alors, Manon, qu'est-ce qu'il se passe du côté du plan de travail dont on va déguster? Il y a une casserole d'eau bouillante qui est en train de chauffer sur la plaque de cuisson.
Oui. Alors, en fait, vous avez la recette sur le site de l'émission.
Ouais.
Je vais essayer de vous parler des principales étapes à réaliser, pour réaliser la recette. Mais évidemment, on va essayer d'écourter certaines étapes, notamment celle d'une persillade. Donc, vous pouvez réaliser une petite persillade avec du persil, un peu d'ail frais, du cerfeuil, un trait de jus de citron et de l'huile d'olive.
D'accord.
Vous hachez tout ça ensemble et vous préparez votre petite persillade en amont avant de réaliser la recette. Donc, moi, elle est déjà prête et je l'ai mise sur le côté.
Parfait.
Et puis là, j'ai mis de l'eau à chauffer. Idéalement, si on était en bord de mer, il faudrait aller chercher. Moi, j'adore aller chercher de l'eau de mer, la faire bouillir et la filtrer. Et on peut se servir de l'eau de mer pour cuire ces coquillages. Donc là, j'ai pris des coques et on va ouvrir les coques dans de l'eau salée bouillante. Et en fait, pour moi, c'est une technique que j'ai appris. Je fais un petit clin d'œil à Alexandre Couillon à la marine à Noirmoutier, où on va plonger les coques dans l'eau bouillante et elles vont s'ouvrir dans l'eau bouillante et en fait elles se gorgent à ce moment-là d'eau salée et en fait ça nous fait des coques très très charnues.
C'est ça, vous connaissez aussi la technique de la coque à la bouilloire? Vous faites bouillir une bouilloire, vous versez, ça revient
sur
même, sur les coques et ça s'ouvre. Et c'est assez magique en 30 secondes. Donc des coques, on pourrait utiliser aussi des palourdes.
Oui.
Là, c'est une bonne nouvelle parce que la coque est un coquillage nettement plus bon marché.
Voilà. Et puis, donc là, j'attends que mon eau boue un petit peu plus, mais ça va arriver. Et puis, donc en fait, sur le côté, j'ai préparé une poêle avec les spaghettis de mer que j'ai déjà pré-blanchis. Donc je les ai déjà plongés dans de l'eau bouillante, refroidie. Vous pouvez aussi les cuire à la vapeur. Je les ai cuits à la vapeur pendant une vingtaine de minutes. Et ça fonctionne très bien. En fait, cette pré-cuisson, elle permet de casser la fibre du haricot de mer.
Et d'attendrir un peu
exactement. Et de rendre, voilà. Et on peut choisir, parce que j'en ai parlé avec Jean-Marie, il m'a dit, on peut les manger vraiment al dente, comme on mangerait un haricot vert al dente. Et moi, je trouve que ce côté souple.
C'est un peu comme pour les pâtes, en fait.
C'est exactement
ça. Soit on les veut fondantes, soit on les veut fermes.
Exactement. Et là, j'ai choisi fondant, parce que je trouve qu'il y a un côté, ça change la texture du haricot de mer. Donc là, je vais plonger les coques dans l'eau bouillante, vous entendez le bruit.
Voilà, une belle poignée, deux belles poignées,
voilà,
on va dire.
Exactement.
Là, c'est pourquoi pour une portion généreuse.
Oui, pour deux assiettes, je dirais.
C'est ça.
Deux belles poignées. Donc là, je plonge les coques qui s'ouvrent presque immédiatement. Hein. Ça
incroyable.
Va très vite. En 15 secondes, je les retire. Je mets les doigts parce que
vous les ressortez avec
avec un écumoir.
Ouais.
Qu'on m'a gentiment prêté ce matin. Un restaurant à côté de chez moi.
Très bien, parce qu'évidemment, Manon Fleury n'est pas équipée à la maison. Et ensuite, alors là, on va passer carrément au moment crucial.
Voilà, et donc là, je prends ma poêle, je réchauffe très légèrement mes haricots de mer, qui sont déjà pré-cuits, je le rappelle.
Ça, vraiment, c'est incroyable. À part la couleur, on dirait vraiment des spaghettis, c'est tout à fait
et
étonnant.
Et je les ai mélangés, parce que Jean-Marie m'avait envoyé aussi un petit peu de nori frais.
Et donc je les ai mélangés avec un peu de nori frais aussi.
Et un peu de matière grasse ?
J'ai mis à peine d'huile, mais okay. Franchement, il n'y a pratiquement pas besoin de mettre de matière grasse.
Très bien. Expliquez-nous juste les étapes d'après et on va déguster dans un instant.
Et la prochaine étape, ce sera de les mettre dans l'assiette, à peine tiédis. On mettra les coquillages par-dessus avec un peu de persillade.
C'est ça. Et c'est une affaire de quelques minutes, sincèrement.
Exactement.
Et on se réjouit à l'idée de goûter ça dans quelques minutes. La recette est en train de finir. Donc les haricots de mer qui sont juste un peu réchauffés avec un tout petit peu d'huile dans une poêle. On a ouvert les coques, on va réunir tout ça avec une persillade dans une assiette. Dans un instant, on les déguste ensemble et on tente un accord. Spaghetti à l'évongolé avec le vin d'Antoine Gerbel. Mais juste avant, on déguste Bonnie Banane. Cha-cha-cha.
Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha.
La température a grimpé quand tu m'as accompagné. Soudain j'ai trouvé une idée pour cacher ma timidité. C'était qu'une simple démonstration. Je t'ai pris à l'essai. Juste une façon de faire diversion avant que ça dégénère.
Appelle-toi. Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi. Tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha.
Lorsque je bouge mon corps, je le fais à mon insu. À force de faire des efforts, je suis essoufflé et je sue.
Ça n'est qu'une simple démonstration. Je te prends à l'essai. Histoire de capter ton attention. Au lieu que tu t'énerves pas. Boum boum patatra. Mais t'es plus fort que ça. Tu retombes sur tes pattes comme un chat.
Chapeau pas. Tcha tcha tcha. Rapproche-toi. Tcha tcha tcha. Fais comme moi. Tcha tcha tcha. Un, deux, trois. Tcha tcha tcha.
Des algues dans nos assiettes, c'est le thème du jour. On va déguster, il est 11h46 à l'horloge de France Inter, nous sommes en direct. Manon Fleury, notre chef chroniqueuse, est en train de dresser ses spaghettis à les vongoler 100% océan. Merci beaucoup Léonard qui nous aide aujourd'hui, qui nous aide à faire le service. C'est vrai qu'il y en a tellement partout qu'on a tendance à s'y perdre. On va les déguster justement dans un instant. Oh là là, elles sont jolies hein, ces spaghettis à les vongoler, mais on va tenter justement un accord avec notre chroniqueur vin Antoine Gerbel.
On va déguster sur France Inter.
Cher Antoine, en plein dans le thème marin et salin aujourd'hui.
Oh, c'est une très belle histoire d'amour, hein, quand même, nos vins blancs, les vins blancs européens, enfin, les vins blancs qui ont cette chance de naître sur nos fameux calcaires. Vous savez, quand la France dispose, je crois, de 80% des calcaires européens et au niveau du monde, c'est extraordinaire. Et ça raconte la finesse de nos vins et la particularité de nos vins blancs. Alors, pourquoi je parle des calcaires? Parce que ce sont d'anciennes mers, hein, c'est des sédiments lacustres et que quand une vigne est bien travaillée, j'insiste, hein, je parle pas de vignes qui sont artificiellement nourrie et pas travaillée, bah quand la vigne est bien travaillée, ses racines nous racontent cette histoire. Alors, j'aurais pu faire plein de propositions. Déjà, tout le pourtour, enfin, toute la face océanique française, il y a des vins blancs qu'on s'y note. On va dire des fois plus climatiques. Le sud-ouest, par exemple, peut donner des notes iodées sur ces vins, mais dans le grand sud-ouest, on va dire que c'est côté océanique qui joue quand les marées sont en train de tourner au mois de septembre et qui met en danger, d'ailleurs, des fois, les récoltes. Eh ben, on retrouve des petites notes iodées dans certains territoires. Puis je voulais parler d'un territoire On revient souvent sur cette région, mais c'est parce qu'il bouge énormément et que les vins sont accessibles et qu'aujourd'hui, il y a des jeunes vignerons qui nous épatent. Je veux vous parler d'un jeune vigneron qui a commencé, il avait seulement 30 ans, et dont son pédigré est fascinant pour l'émission. Il est né dans la baie de Morlaix, voilà. Donc, c'est un pur Breton du Finistère. Il s'est passionné pour la nature. Il savait pas trop ce qu'il voulait faire. Il se retrouve à Oléron avec sa compagne et sa voisine est une vigneronne. Et bon, vous imaginez l'environnement de la vigne à Oléron, bah c'est la mer aussi, c'est le sable. Donc, inconsciemment presque, il se rapproche naturellement de cet univers de l'association de la mer et de la vigne. Il a le virus de la vigne à Oléron. Il réfléchit comment s'installer. Bon, avec son ami, ils prennent un vélo, ils partent faire un tour d'Europe. Ils vont en Grèce, ils vont en Italie, ils vinifient à droite, à gauche, ils s'amusent. Et dans sa tête, la petite musique de la mer et de la vigne est quand même là. Et il est passé par le Muscadet, et donc il aime cette région, il se dit, il y a de quoi faire. Il s'installe avec petite surface. D'ailleurs, son domaine s'appelle les vins jardinés. Donc voilà, vous voyez, 4 hectares, c'est très peu. Et il révèle surtout cette fantastique nuance de terroir qu'il y a dans le Muscadet. Ce Muscadet qu'on imagine un peu grossier, un peu facile, acide, qu'on met dans la cuisine ou qu'on boit à trois, comme on dit, deux qui vous tiennent, un qui vous...
Le vin parfait pour se détartrer les dents.
Pour vous mettre ça dans le gorgeon. Non, c'est aujourd'hui des vins beaucoup plus subtils. Dans votre verre, vous avez sa première cuvée qui coûte 10 euros. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un vin blanc vivant dans mon verre qui coûte ce prix-là, 10 euros chez lui, un petit peu plus chez les cavistes.
C'est peut-être pour ça que ça s'appelle vin pour tous d'ailleurs.
Alors ça s'appelle vin pour tous pour ça et aussi parce que comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas les fonds et les banques ne les aident pas. Donc ils se tournent vers les amis, un peu plus largement les amis des amis, et ils demandent pas grand-chose, simplement un peu de trésorerie. Parce que la banque, elle vous prête pour acheter un tracteur qui peut reprendre si ça va pas. Elle vous prête pour acheter des terres qui peuvent reprendre si ça va pas. Par contre, de la trésorerie pour dire, moi mon vin, il me faut 3 ans pour le construire, eh bien ça permet personne vous le prête, sauf les amis. Et donc ça s'appelle Vin pour tous, tous pour un et vin pour tous, et ça raconte cette histoire. Alors dans votre verre, vous avez Vin pour tous, une association de deux terroirs typiques du Muscadet. C'est d'abord les granites. Donc les granites, on imagine bien, on est en phase de décomposition du massif armoricain, les plages de la Baule sont pas très loin, ils sont là, mais ils ont aussi des petits argiles qui donnent du goût, et les gabbros. Alors les gabbros, c'est une terre, une roche un peu particulière, un peu plus dure. C'est vraiment des sédiments qui sont pas encore décomposés et sur lesquels la vigne va amener beaucoup plus de rondeur, parce que j'ai oublié de vous parler, j'ai évidemment consciemment, du cépage, le melon de Bourgogne.
Et oui.
C'est ce melon de Bourgogne. Alors il a rien de bourguignon véritablement, il est passé en Bourgogne. Voilà, c'est son nom qui rappelle son terroir d'origine, mais il y en a plus aujourd'hui planté en Bourgogne. Il s'est installé là parce qu'il est pratique à cultiver, il peut produire beaucoup, et c'était la destination du Muscadet il y a quelques temps, faire des vins de masse. Et mais par contre, si vous le restreignez un petit peu, pas trop, il faut toujours du jus, vous avez un buvard de terroir. Un vrai buvard qui va vous raconter, dans le vin que vous avez dans le verre, c'est une association, granit et gabbro, et là j'ai deux vins à côté qu'il décline, l'éloge, c'est plutôt granit. Je vous ai mis ça dans ce petit verre-là, alors ça, ah vous oui. allez voir, c'est de l'eau de roche. C'est-à-dire granit, vous avez l'impression, le gabbro, il vous fait quelque chose de gras et jovial.
Et là, on suce des cailloux.
Et là, voilà, on est beaucoup plus droit. Et on revient avec notre identité d'algues, parce que moi, je trouve que ces vins, voilà, nous permettent une ouverture sur le cru. On a évoqué la cuisine japonisante. Vous savez que c'est quand même les Japonais qui, aujourd'hui, sont nos plus grands ambassadeurs de ces vins-là, parce qu'ils vont directement, ils n'en ont rien à faire que ça s'appelle Muscadet ou pas. Et d'ailleurs, ce vin ne s'appelle pas Muscadet. Pour conclure, c'est un vin de France. Encore une fois.
Hors appellation.
Il n'a absolument rien contre le Muscadet. Ce vigneron, dont je rappelle le nom, Johan Gillot. Mm-hmm. Mais par contre, il trouve le cahier des charges du Muscadet qui ne correspond pas à son travail. C'est un jardinier. Il a 4 hectares. Il se défonce. Donc, il veut, voilà, faire un vrai vin de terroir. Et c'est vrai que les Muscadets que vous rencontrez en tête de gondole n'ont pas grand chose à voir. Mais c'est quand même le terroir du Muscadet qui est raconté là. Vin pour tous. 10 euros, donc, chez lui. Un tout petit peu plus chez les cavistes. Il y a toute une génération en Muscadet qu'il faut vraiment, vraiment aider et entretenir. Et je dirais un dernier mot sur les algues et la vigne. Les algues et la vigne, aujourd'hui, on isole, on travaille sur les ARN. Voilà, on parle beaucoup des ARN. Parce qu'on n'explique pas comment ces algues sont dans toutes les mers. Elles ont tout conquis. Donc si elles ont tout conquis partout, c'est qu'elles doivent avoir une puissance armée pour combattre, bien évidemment, tout ce qui peut les attaquer. Et donc on est en train d'isoler ça pour traiter et le mildiou, l'oïdium et la pourriture grise en même temps. Il y a une entreprise installée à Bordeaux qui est en train de travailler sur ça, et ça, c'est passionnant, et ça devrait arriver en 2022-2023 dans les vignes.
Faut
c'est
pas
ça.
Oublier que les algues sont à l'origine...
biologique dans les vignes.
Et puis que les algues sont à l'origine des plantes terrestres, hein.
Bien sûr.
Elles sont apparues bien avant, donc ça, faut pas l'oublier.
Ne pensons à ce magnifique jardin sous-marin, pensons aussi à cette recette incroyable que moi j'ai boulotté pendant la chronique d'Antoine. Franchement, spaghetti de la mer au vongolais. On n'a pas de pasta de blé dur, hein, pour ceux qui auraient manqué une étape. On est vraiment sur ce spaghetti avec une texture qui est à la fois fondante et ferme, les deux à la fois. Il y a de la mâche.
Il y a quand même de la texture.
Il y a un peu d'acidité, jus de citron, la persillade pour la gourmandise. C'est coque bien juteuse en bouche, très saline. Franchement, c'est prodigieux. C'est un truc incroyable. Est-ce que ça va l'accord, cher Antoine?
Alors, je suis en train de me battre avec mes pastas.
Bravo, hein. Manon, c'est
très
bon.
Pour la petite anecdote, c'était le plat que m'avaient servi Jean-Marie et Valérie quand j'étais venue les voir au mois d'août. C'était leur plat d'accueil qu'on avait dégusté tous ensemble. Donc,
incroyable.
C'est assez symbolique.
Et ben, vraiment bravo. Ça, on pourrait le servir dans les meilleurs restaurants. Ce serait une superbe aventure. On a beaucoup, beaucoup de questions, Nathalie, Yaniello. Beaucoup de questions sur cette effervescence autour de l'ail et sur le moyen ou les moyens de s'en procurer. Et je profite pour en dire, pour dire un mot de Neptune Élément, une toute jeune entreprise. Ils sont venus quelques minutes avant l'émission directement. Non mais c'est pas quelque chose à faire malheureusement.
Non,
on peut pas accueillir tout le monde, mais en tous les cas ils nous ont apporté des versions sèches de leurs algues. Alors Ulva, c'est la laitue de mer, mais également Palmaria palmata. Là on parle de
la dulce.
De la dulce. Là c'est vraiment
une algue rouge.
Une algue rouge qui est aussi très intéressante
très
et qu'on trouve très facilement. Et là en version un peu, c'est carrément dans des boîtes
c'est
en métal.
Paillette.
C'est des paillettes
boîte de thé.
Et c'est très intéressant parce que l'algue peut être aussi dans cet état-là une espèce de condiment ou d'épice. Mais question plus générale, ces algues, quand on n'a pas la chance d'habiter en Bretagne.
Tous les magasins de type biologique, tous les magasins naturels, et en frais, on peut le trouver en magasin biologique et chez les poissonniers. Après, il faut téléphoner aux producteurs d'algues, soit les producteurs tels Jean-Marie et Valérie Pédron, qui font du naturel et de la cueillette, et il y a une dizaine d'entreprises qui se montent pour faire de l'élevage d'algues. Et un élevage d'algues, l'intérêt, c'est qu'il n'y a aucun intrant, évidemment. Si on sait bien faire, on ne pollue pas et il n'y a pas de bilan carbone.
Un tout petit mot d'une recette emblématique, qui est d'ailleurs dans votre livre, les algues, 10 façons de les préparer. Il y a un reportage qu'on devait passer, mais qui sera disponible sur franceinter.fr à la page On va déguster, c'est le caviar d'algues fraîches des Pédron.
Alors le caviar d'algues, eux ils appellent ça le caviar d'algues, et la plupart des personnes qui coupent et taillent en julienne plein d'algues mélangées et les mixent avec des capres, des cornichons, enfin ce que vous voulez en fait, ça sera un tartare d'algues. Ce sont des algues fraîches, donc tartare. Après il y a la recette de Jean-Marie et Valérie qui est très très bonne et que je donne dans mon livre. Moi je la fais sans ail parce que j'ai un problème avec l'ail et les produits de la mer, je trouve que ça camoufle un peu. Poil trop haut, donc on peut le faire comme on le veut et avec des nori. La base c'est laitue de mer, nori, dulce.
Voilà, il y a un trio d'algues.
Voilà,
qui sont faciles à trouver. Bonne nouvelle.
Qui sont faciles à trouver et donc c'est très facile à faire. Vous prenez un bon couteau. Alors surtout ne jamais utiliser de mixeur. Voilà, un robot coupe, ça fiche en l'air toutes les algues.
Donc
c'est
on y va
couteau,
au couteau bien aiguisé.
Et on s'amuse, on prend la base de la recette des Pédron qui est dans mon livre, mais après on a le droit d'oublier un élément, d'en ajouter un autre.
Alors, on a ce...
À propos de l'algue dulcée...
Ce tartare en bocal. Et
Florence nous demande, acheter au poids en vrac, combien de temps peut-on la conserver?
Alors, en sec, longtemps... Enfin un an, sans problème.
D'accord, en version sèche. Qu'est-ce que vous pensez de ce tartare, Manon ?
C'est très bon, c'est très doux en fait. On pourrait penser que c'est très iodé et finalement c'est très, c'est enrobé dans une huile, je pense. Je sais pas quelle.
Oui, il y a de l'huile en général, un peu d'olive et puis on peut mettre.
Et ça,
sur
et ça
ce
permet de, vraiment de casser aussi ce côté iodé et c'est assez agréable. Moi, je l'imagine vraiment sur une tartine à l'apéritif, ça fonctionne très bien.
Oui, absolument.
C'est comme ça qu'on la mange, qu'on mange le caviar.
On est obligé malheureusement de se quitter sans évoquer une recette, mais la recette. recette est en ligne. C'est la mousse au chocolat au pioca. Le pioca, alors c'est une algue.
C'est une algue.
Le pioca,
c'est une algue très vieille bretonne qui fournit des carréganes, qu'on trouve d'ailleurs dans l'agroalimentaire avec le 406 qui apparaît partout. Et donc, il suffit de faire chauffer l'algue que sèche, si elle ne marche pas, si elle n'est pas séchée, et dans du lait notamment, avec une dose de 7 grammes pour un litre de lait.
Pouvoir gélifiant.
Pour gélifier calmement.
Magnifique. Un grand merci, Nathalie Yaniello. Je vais y arriver. Merci beaucoup, Manon. Merci, Antoine. La semaine prochaine, on remonte aux sources de la cuisine avec une émission entièrement consacrée aux cuissons. Nous serons accompagnés par l'ingénieur cuisinier Stéphane Lagorce. Déborah Dupont et Dominique Cutin seront dans les fauteuils des chroniqueurs. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.